France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Pierre Antaille, je suis né en 1964 à Paris et je suis musicien claveciniste.
Hier, Pierre Antaille nous peignait son enfance, du côté de Fontainebleau, entouré de ses parents, peintres tous les deux, et de ses quatre frères et sœurs. Après un premier amour pour la peinture, le claveciniste découvre la musique. Comment cela s'est-il imposé à lui ? Réponse de l'intéressé.
Qu'est-ce qui nous a fait nous intéresser à la pratique sur les instruments anciens ? C'est amusant quand même, mais c'est beaucoup, à mon avis, la flûte à bec, parce qu'on apprenait la flûte à bec à l'école. Tout le monde trouve que c'est un instrument horrible. Mais c'est comme tous les instruments, c'est un instrument horrible. Il y a des grands compositeurs qui ont composé des choses merveilleuses pour la flûte à bec, Bach en premier. Donc c'est un instrument merveilleux si on le joue bien. Et à cette époque, il y avait quand même Franz Brüggen, qui était un artiste absolument exceptionnel de premier plan, qui jouait cet instrument merveilleusement bien. Et on a été dirigé vers ce monde-là, voilà. La vie faite de petits hasards. Le premier stage de flûte qu'on ait fait, c'était avec un élève de Brüggen qui enseignait. Puis il y avait toujours un clavecin qui traînait, etc. Il y avait Leonhardt qui était jamais loin. Et puis quand même, c'est important. À ce moment-là, à France Musique, il y avait une petite bande d'irréductibles. Enfin, pas si irréductibles parce qu'ils se sont fait virer, je pense, au bout d'un moment, qui défendaient cette façon de voir et qui passaient dimanche après dimanche les cantates de Bach par Leonhardt et Harnoncourt. C'est des gens qui après ont fait pour beaucoup un travail de journaliste ou d'écrivain, comme Jacques Drillon, Denis Collins, Jean-Marie Piel, entre autres, qui organisaient aussi des cours d'interprétation avec des musiciens comme ça. Brüggen est venu donner des cours qui étaient passionnant à ce moment-là, Anner Bijlsma, c'était le milieu des années 70. Voilà, donc on écoutait tout ça à la radio et on avait l'impression d'être une petite secte et d'avoir un peu tout le monde contre nous. C'était assez vivifiant.
Pierre Antaille, cette enfance plutôt plus proche de l'atelier, et puis la musique qui arrive, la musique que vous apprenez en marge des écoles, en marge des conservatoires, ce qui est le gage évidemment d'une certaine liberté aussi, et d'une manière de l'apprivoiser entre vous. C'est une approche à ce moment-là qu'on pourrait dire peut-être intuitive aussi avec vos frères. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'instinct, de l'intuition qui aurait pas mal de place quand on est tout jeune comme ça?
Mais il y en a dans la mesure où on apprenait un peu seul, parce qu'on était isolés, donc il fallait faire beaucoup de choses par nous-mêmes. Et puis moi, j'avais, je pense, assez vite conscience du temps perdu, parce que j'ai commencé relativement tard avec ça. J'ai commencé vers ma 10e année. Donc il fallait avancer très vite, puis il fallait aussi rattraper mes frères.
Directement le clavecin, ou bien vous avez commencé, est-ce qu'il y avait un clavier à la maison au départ?
Oui, justement, il n'y avait pas d'instrument à la maison, à part les premières flûtes, mais quand il a été question de faire la musique plus sérieusement, quand mon père a vu qu'on y mettait beaucoup de passion, on a décidé d'acheter un instrument à clavier. Ma mère, en souvenir de sa jeunesse, voulait un piano, parce qu'elle n'en avait pas joué depuis la guerre. Et mon père, je pense, était réticent avec cette idée d'avoir cet instrument d'une culture qui n'était pas la culture religieuse allemande, qui n'était pour lui pas la vraie musique, mais c'était ce qui avait suivi, c'était la musique de salon, de Beethoven à Chopin. Et il n'aimait pas beaucoup ça, enfin, il trouvait ça un peu suspect. Et donc, il l'a Il s'est mis d'accord, j'imagine, avec mes frères, et il a acheté une petite épinette de facture moderne, qui n'était pas un bel instrument, mais ça, ça lui semblait plus convenir à une musique domestique bien mise. Et donc, j'ai commencé là-dessus. Après, il y a eu un piano. Voilà. Après, il y a eu un piano, il y a même un orgue de salon, et j'ai travaillé là-dessus. Mais il fallait rattraper mes frères qui étaient en avance de quelques années et qui jouaient déjà, l'un de la flûte, l'autre qui avait commencé la viole de gambe, et il leur fallait un accompagnateur au clavier, donc il fallait que j'apprenne très vite à jouer quelques accords et être avec eux.
Pourquoi le clavecin si tous les instruments sont d'emblée horribles? Celui-là, il vous a semblé beau. Vous disiez tout à l'heure que tous les instruments sont horribles à la base, sauf lorsqu'ils sont bien joués. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cet instrument qui est pas le plus, peut-être le plus évident d'une certaine façon?
Alors, c'était pas, je pense pas le clavecin en lui-même, c'était vraiment le répertoire. Donc, ce que j'ai aimé très vite, c'était Bach, c'était la musique de clavier particulièrement, le clavier bien tempéré. Ça, c'était mon idéal de musique. Et puis, alors on l'écoutait à la maison, il y en avait des listes de piano, c'était particulièrement Richter, et d'autres, Gieseking, Fischer. Et puis, un jour est arrivé Leonard tout à fait par hasard, par un enregistrement, et je pense que ça a été ce qu'on appelle un choc. Enfin, tout à coup, j'ai entendu quelque chose, ou quelqu'un qui jouait différemment, et j'ai eu l'intuition qu'il en savait plus que les autres. Voilà, c'était l'impression très forte, qui est l'impression partagée par toute cette génération, finalement, de gens moins jeunes que je ne l'étais, parce que j'avais 11-12 ans à ce moment-là, que Leonard était quelqu'un qui en savait plus.
C'est-à-dire qu'il était plus proche de l'essence même de Bach, vous aviez l'impression? C'est ça, en savoir plus?
Je ne sais pas. Leonard est vraiment un mystère. Il suffit de regarder le film de Straub.
Oui,
quand on le regarde
des
décennies après, finalement, c'est absolument incroyable parce qu'il ne fait que jouer et diriger. Apparemment, il dirige pour la première fois de sa vie dans le film. Et il est clair qu'il en sait beaucoup plus que les gens qui sont avec lui, qui font la musique avec lui à l'image, ce qui était une réalité. Et donc, il incarne aussi très bien le personnage de Bach pour ça, parce qu'il est au-dessus des autres de façon incontestable. Mais bon, Leonard, c'était peut-être ce que j'ai appris de le plus fort avec lui, c'est que j'avais l'impression qu'il savait tout, et j'étais pas le seul à le penser. Il y avait une sorte de crainte de ces personnages qui avaient donné l'impression d'être en contact privilégié avec les compositeurs du passé, mais c'était simplement qu'il avait beaucoup plus travaillé, digéré, eu beaucoup plus d'instinct, si on veut, mais aussi qu'il était extrêmement convaincant, parce qu'extrêmement convaincu au moment du jeu. Mais après, quand je l'ai connu, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi modeste par rapport à la musique qu'il jouait, répondant le plus souvent « je ne sais pas, on ne sait pas ». On ne sait rien, etc. Et ça, c'était la grande leçon de ce travail qu'on fait pour essayer de comprendre quelque chose, tout en sachant qu'on n'y arrivera pas. De toute manière, c'est pas parce qu'un compositeur dit « faites comme ça » qu'on sait comment le faire. On n'entend pas la musique sonner en lisant un traité.
quand vous avez 11-12 ans, vous êtes complètement partition vore, ou je ne sais pas comment dire, vous lisez énormément de musique. Quel est votre rapport à la musique? Vous disiez qu'il faut rattraper le temps passé. C'est quoi? C'est une gourmandise folle à la fois de justement cette polyphonie que vous évoquiez, à la fois soit seul à son clavier, avec vos frères dans la musique de chambre. Vous allez à l'école en même temps? Quelle place à la musique?
C'est vraiment ce qu'on appelle une passion. Elle prend toute la place possible. Je travaille beaucoup. Alors, vous parliez de l'école, justement. Au moment où j'ai commencé vraiment à travailler sérieusement, j'étais dans mes années de lycée, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le collège. Et je travaillais très peu scolairement. J'ai décidé de travailler après dîner, de 20h à minuit, ce que l'école me laissait comme temps, devoir terminer ou non, parce que c'était assez comme ça avec l'école, passer l'heure du dîner. Et puis j'ai arrêté, j'ai fait du lycée par correspondance, et puis ça s'est enlisé, je n'ai pas été jusqu'au bac. De toute manière, ma voie était tracée, enfin je savais exactement ce que je voulais. C'était pas du tout un plan de carrière ou quoi, c'est simplement que je faisais ce que j'aimais.
Et ça, vos parents, pour tous leurs enfants, ont toujours laissé libre cours
oui.
à ces désirs.
Oui, 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 parce qu'eux-mêmes avaient vécu des choses difficiles et s'étaient heurtés à leurs parents et avaient suivi leur voie, donc ils étaient heureux avec ça. Ils étaient évidemment conscients des dangers de ce genre de vie, mais ils l'acceptaient, oui. Ils nous aidaient beaucoup, ils nous accompagnaient en achetant des instruments. Ils nous ont toujours aidés pour ces choses-là, oui.
Et le rapport même à l'instrument, parce que je me dis, quand on est aussi enfant, adolescent, l'accord du clavecin, c'est l'occasion aussi de grandes aventures, hein, de pouvoir tester énormément de choses, s'amuser. Ça faisait partie du plaisir.
Et oui, parce que le clavecin, c'est pas comme le piano, c'est un instrument qu'il faut entretenir. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas l'entretenir, mais c'est embêtant de ne pas savoir l'entretenir, parce qu'il faut toujours faire venir quelqu'un pour accorder, régler, ça bouge tout le temps. Et donc ça, c'était une bonne chose, parce que en plus, à cause du fait qu'on était isolés à la campagne, il fallait vraiment se débrouiller par nous-mêmes. Donc mon premier clavecin, je l'ai beaucoup trafiqué, et donc j'ai appris comment fonctionnait la mécanique et comment produire le son, parce que c'est avec l'harmonisation qu'on crée évidemment le matériau initial sur lequel on va travailler. Le clavecin, c'est quand même assez particulier parce que officiellement il n'y a pas de dynamique, donc l'instrument doit être très bien réglé. Sinon, on a des sons forts et des sons faibles.
Oui, quel que soit le poids sur la touche, le son est censé être le même. C'est ça ?
Censé, oui, c'est rare. Bon, maintenant, ce que j'ai appris, ce que je sais maintenant, c'est que ça n'est pas vrai. C'est l'instrument sur lequel il y a une dynamique. C'est une dynamique assez infime. Disons, le plus fort et le plus doux, ce ne sont pas très loin. Mais justement, on travaille sur l'infinité, variété de ces dynamiques. Mais si des dynamiques existent, évidemment. Sinon, ce ne serait même pas un instrument de musique. Et parce que les plus grands compositeurs ont choisi cet instrument dans une époque où la dynamique était cruciale. C'était vraiment un élément de leur langage. Alors, je pense que des gens comme Bach ou Couperin ou d'autres n'auraient pas confié le meilleur de leur musique à cet instrument.
Je me demandais quelle était la place aussi, Pierre Antaille, pour l'imagination.
Oui, enfin, tout musicien doit avoir beaucoup d'imagination sonore. Mais c'est vrai que le clavecin, il a ce côté très peu rhétorique. Alors, surtout, il n'est pas fait pour les grandes salles, mais aujourd'hui, on est amené à jouer dans des grandes salles. Il faut faire croire au public que là, il y a un fortissimo. Alors, comment on y arrive? Oui, il y a une part d'imagination, il y a une part d'accoutumance de l'oreille. Tout ça, c'est très mystérieux, mais il faut l'imagination, l'interprète lui-même, en premier lieu, d'avoir cette imagination, je pense.
France Musique, Les grands entretiens de Pierre Entaille.
Il y a une sorte de thèse un peu généralisée sur le clavecin, et j'ai un peu peur que ça vienne de l'école Léonard et de l'étude de son jeu, qui laisse croire que le clavecin est un instrument différent des autres, qu'il faut traiter différemment, et qu'on obtient la dynamique en créant des petits déséquilibres ou des irrégularités qui laissent entendre des changements dynamiques. En d'autres termes, que si on attend plus avant une note ou on la fait venir plus tôt, on aura une autre impression. Oui, c'est vrai, mais on ne peut pas penser comme ça. L'interprète ne peut pas penser de cette manière. Moi, je préfère traiter le clavecin exactement comme un violon, une flûte ou une voix. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire.
Qu'il soit le vecteur de la musique au même titre.
On peut tout obtenir sur le clavecin, je le crois, et les grands auteurs l'ont cru, ceux qui ont composé pour cet instrument. Couperin dit des choses là-dessus, d'ailleurs, sur le fait qu'on a beaucoup de doutes que le clavecin soit susceptible d'émouvoir, mais que lui pense que oui, donc tout est une question de jeu.
Bah, Couperin, justement, lui, dans cette façon d'émouvoir, alors voilà une musique qui est d'un raffinement, d'une délicatesse magnifique.
Oui.
Il a réussi.
Oui, Couperin, c'est un compositeur qui compose vraiment pour une petite pièce, enfin, pas pour un public. Et on peut pas forcer les effets, donc c'est assez compliqué, Couperin. Bach a ce côté beaucoup plus rhétorique. On disait de lui, d'ailleurs c'est un des seuls commentaires qui est sur son jeu, que quand il jouait, c'était comme un discours. Évidemment, il était lui-même connu pour sa science rhétorique. Il était visité par les grands professeurs de rhétorique, etc. Donc pour lui, c'était un élément essentiel de maîtrise du discours. Comment convaincre l'auditeur à travers un jeu d'une certaine manière théâtrale, à travers des figures, des symboles, et donc assez différent, à mon avis, de l'univers de Couperin, qui est beaucoup plus intime.
Et alors, est-ce que ça voudrait dire que la musique de Bach serait une musique qui parle davantage qu'elle ne chante ?
Les deux. Elle parle davantage et elle chante davantage. Mais le clavecin, il est capable de ça. Le clavecin est capable de tout faire, il est capable de chanter. Il est capable d'émouvoir, évidemment, puisqu'il est capable de chanter, mais il est capable de différences dynamiques, de contrastes. C'est simplement, et c'est là où je veux en venir, c'est simplement plus difficile à obtenir que sur un autre instrument sur lequel il suffit de frotter plus fort, souffler plus fort, frapper plus fort, mais on l'obtient. Il faut chercher davantage.
Petit retour, si je puis dire, juste pour quand même avoir un petit peu tous les maillons de votre chaîne. En 79, tout le monde rentre à Paris. Quel est le motif, en fait, de ce voyage ? Est-ce que vous n'êtes pas vieux à l'époque ? Qu'est-ce que vous en gardez comme quitter la nature, etc. ? Il y a quelque chose quand même de...
Oui,
j'imagine
après avoir passé toute l'enfance, oui. Oui, comme on était assez avide de musique, on n'a pas souffert de ce déménagement. Je pense aujourd'hui que mon père l'a décidé en grande partie pour nous. Il voyait bien qu'on avait besoin de la ville, de la vie en société pour développer notre travail. Parce que pour lui, ça n'a pas été une bonne chose. Il a eu un tout petit atelier. Finalement, assez peu après, il a cessé définitivement de peindre pour différentes raisons, mais peut-être pour celle-là aussi. Pour nous, c'était vraiment très bien, mais on avait déjà commencé à prendre des cours un peu individuellement. Nous rendons à Paris. J'avais des
Les premiers professeurs.
J'ai choisi un professeur. C'était... Alors, moi, j'ai eu un professeur, Arthur Haas, un Américain, qui habitait à Paris à ce moment-là et qui maintenant vit de nouveau à New York. C'était mon premier professeur. J'ai pas mal appris avec lui. Ça a duré un an ou deux.
Et puis... Vous avez appris quoi ? Parce que c'était une découverte.
Alors, oui, alors que j'ai appris un peu de discipline, ne serait-ce que technique, parce que personne ne m'avait dit comment faire. Voilà, donc il m'a montré un peu comment. La technique adaptée au jeu du clavecin. Mmh.
Voilà. Vous n'avez pas eu besoin de désapprendre.
À ce moment-là, si, en tout cas, quitter un certain nombre de défauts parce que j'avais mal appris, parce que personne ne m'avait dit. Voilà. Le revers de la médaille. J'avais rencontré Leonard, j'ai fait un stage avec lui, et il m'a invité à faire deux autres stages après ça, et je voulais une place au conservatoire à Amsterdam, une place au conservatoire, et Leonard était très demandé, donc il avait une liste d'attente, et alors j'étais en bas de la liste forcément à ce moment-là, il fallait attendre quelques années. Il m'avait dit, c'est pas la peine d'attendre, parce que d'ici là, vous serez... une formule comme Apollon vous considérera comme collègue. Et j'ai dit, mais j'attendrai volontiers. Et j'ai attendu. Et puis, par chance, un élève s'est désisté. Donc j'ai eu une place beaucoup plus tôt que prévu. Ce qui fait que j'ai travaillé 2 ans avec Arthur Haas. 2 ans seul, de nouveau. Et puis après 2 ans, j'ai eu une place auprès de Leonard à Amsterdam, soi-disant au conservatoire, mais c'était un cadre assez particulier, d'abord parce qu'il enseignait plus au conservatoire, mais chez lui. Et aussi parce que j'étais, et c'est amusant aujourd'hui de le constater, j'étais élève invité. Élève invité, ça voulait dire élève après le perfectionnement, c'est-à-dire l'élève qui a fait tout son cursus, qui a tout passé, et qui finalement va encore voir un grand maître pour se perfectionner, voilà.
Sauf qu'on n'avait rien passé,
sauf,
ouais.
Voilà, sauf qu'au moment où je suis arrivé, j'avais pas commencé mes études, voilà. Et je pense que bon, Leonard avait été assez écouté, et donc il a pu se permettre cette irrégularité. Mais aujourd'hui, je pense pas que ça serait encore possible.
Alors, quand vous rencontrez Leonard pour les premiers stages, j'imagine que si c'était un peu votre idole, oui. comment on joue devant lui, c'était pas forcément quelqu'un, j'ai le sentiment, qui devait parler énormément, ou est-ce que c'est son jeu qui était davantage éloquent?
Alors, pour les cours, il parlait très peu. Il parlait très peu de musique en général, il parlait volontiers d'autre chose, mais pas de musique, parce qu'il trouvait que c'était pas la peine d'ajouter quoi que ce soit. Donc, il disait quelques petits conseils d'amis, des petits trucs de métier, voilà. Mais surtout, il considérait les cours, aussi parce que à cause de ce statut particulier, comme des cours à un professionnel. C'est-à-dire, il s'asseyait jamais à côté de l'élève et jouait, montrait des exemples différents, mais il s'asseyait en fond de salle, comme un public. Et là, il faisait travailler justement sur le jeu qui convient pour un public. On disait jouer pour la personne qui est au fond de la salle. C'était lui. Et ça, c'était vraiment très important. Donc jouer pour les autres. Ce que signifie jouer pour les autres, faire passer un texte. Et donc une fois qu'on avait joué, il arrivait qu'il ne dise rien, s'il était content. Et alors, on apprenait dans ce cas-là qu'on apprenait quelque chose. On apprenait au moins qu'on avait bien joué, ce qui était déjà quelque chose. Et autrefois, il était moins content, donc on apprenait qu'on n'avait pas bien joué. Et puis, si on jouait vraiment mal, il donnait davantage d'exemples, d'ailleurs.
Le Le deuxième épisode des Grands Entretiens avec Pierre Entaille se referme avec l'allemande de la suite en mi mineur de Marin Marais par Jordi Savall, Rolf Lislevand, Pierre Entaille, Xavier Diaz-Latorre et Philippe Pierlot. Réalisation Lionel Quentin, prise de son Arthur Gerbeau, mixage Valérie Lavalard, attachée de production Flora Sternadel. Suite de ce portrait demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.